Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 7 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, à Bangui, les journalistes réclament plus de sécurité et le désarmement des groupes armés.
Il faut que le gouvernement, il faut que la communauté internationale prenne leurs responsabilités pour pouvoir assurer la sécurité de tous les citoyens en général et la sécurité des journalistes en particulier.
Par ailleurs, en exclusivité sur la Voix de l'Amérique, la présidente de la transition fait le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir.
Écoutez, j'ai fait le mieux de ce que j'ai pu faire. Je savais que ce n'était pas facile, je n'avais pas conscience que c'était aussi difficile.
Catherine Samba-Panza sera notre invitée ce soir. Élection générale en Afrique du Sud, l'ANC assurée de la victoire?
Les derniers sondages annoncent toujours l'ANC comme largement en avance sur ses concurrents, mais disons que le score qui est prévu, qui est un peu plus de 60%, reste quand même un tout petit peu inférieur aux élections précédentes.
On écoutera la journaliste Émilie Yob. Vladimir Poutine appelle au report d'un référendum sur l'indépendance de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, sans oublier les sports et la musique. Mais avant, le journal.
En République centrafricaine, c'est une journée sans presse aujourd'hui avec une marche des journalistes à Bangui pour réclamer plus de sécurité et le désarmement des groupes armés. Par ailleurs, au moins 13 personnes ont péri hier dans un affrontement à Kagabandoro au centre-nord. Le point avec Félix Yepasis Zembro.
Plusieurs journalistes venus de tous les médias se sont rassemblés sur la place des Nations Unies à Bangui. Sur les banderoles, ils demandent l'arrêt des massacres de la population civile, le désarmement des groupes armés et la réhabilitation des forces armées centrafricaines FACA. Pour Mathurin Momé, directeur de publication du quotidien Le Confident, la communauté internationale et le gouvernement centrafricain doivent prendre leurs responsabilités.
Récemment, il y a eu deux de nos confrères qui ont été assassinés. Il n'y a pas eu de réaction de la part des dirigeants. Il n'y a pas eu de réaction de la part de la société. C'est à nous-mêmes d'intervenir maintenant pour dire que trop, c'est trop. Il faut vraiment arrêter. Il faut que le gouvernement, il faut que la communauté internationale prenne leurs responsabilités pour pouvoir assurer la sécurité de tous les citoyens en général et la sécurité des journalistes en particulier.
Ils ont ensuite marché jusqu'au bureau de la MINUSCA pour remettre un mémorandum à Lawrence Rollers, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Par ailleurs, un affrontement a été signalé hier à Kagabandoro entre ex-Seleka et Antibalaka. Au moins 13 personnes ont été tuées, dont 2 civils.
Les Sud-Africains sont allés aux urnes aujourd'hui dans le cadre des législatives. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, selon les autorités. C'est ce que nous confirme la journaliste Émilie Yob, jointe à Johannesburg, à moins d'une heure de la fermeture des votes des bureaux de vote.
Il y a eu des tensions, effectivement, ces dernières semaines, et notamment hier, où dans un township de Johannesburg, il y a eu des émeutes assez violentes. Eh bien, des mesures de sécurité ont été prises. L'armée a été envoyée dans cet endroit en particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, aucun incident majeur n'a été rapporté, en tout cas pour l'instant. Le taux de participation a été très élevé dès ce matin. Dès l'ouverture des bureaux de vote, il y avait des longues files d'attente. Les gens n'ont pas hésité à attendre plus de 2 heures en moyenne pour aller voter. Et je suis passée encore en bureau de vote il y a quelques instants. Il y avait toujours une longue file d'attente. Donc les Sud-Africains se sont déplacés massivement aujourd'hui pour aller voter. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans la nuit. Les résultats finaux sont attendus samedi.
Émilie Yob, qu'on écoutera plus en détail plus tard dans cette émission, signalons que les États-Unis ont félicité les Sud-Africains pour la tenue de ces élections nationales et provinciales, selon une note du Département d'État.
Attaque dans le sud du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. Bilan, au moins un mort parmi les assaillants. Djibrila Malamkala est maire de Chetimari, dans la région de Difa, proche du Nigeria.
Effectivement, il y a un événement, un incident, on peut dire malheureux. Dans la matinée, aux environs de 7h30, un responsable de cadre de santé m'a appelé pour dire qu'il a été attaqué. On lui a soutiré de l'argent. La police, la gendarmerie, tout se sont abattus sur le lieu. Quand ils sont venus, maintenant, il y a effectivement des échanges de coups de feu. Du côté des forces de défense et de sécurité, il n'y a même pas un blessé. Et de leur côté, il y a un mort et un autre blessé. Et ils ont fui avec un autre blessé encore. Sinon, on ne peut pas dire Boko Haram. Boko Haram, ce n'est pas 2 ou 3 personnes, ou 6 personnes ou 11 personnes. Ça a commencé par un vol. Moi, je suppose que c'est des bandits armés, des coupeurs de route, mais qui prennent la forme de Boko Haram.
Des centaines de personnes auraient trouvé la mort lundi lors d'une attaque dans le nord du Nigeria. D'après les autorités locales, des militants ont pris d'assaut Gamborun Gala, près de la frontière avec le Cameroun. Ils auraient mis le feu à des maisons. Le plus grand marché de la ville et un poste de police ont également été incendiés. Cette attaque intervient alors que le Nigeria est toujours sous le choc suite à l'enlèvement de centaines de jeunes filles le mois dernier par les islamistes de Boko Haram. La police offre une récompense de 300 000 dollars pour toute information permettant de les localiser. La France a annoncé l'envoi d'une équipe spécialisée au Nigeria pour aider dans les recherches. Et puis hier, les États-Unis ont aussi annoncé l'envoi d'agents de renseignement pour aider Abuja à retrouver ses jeunes filles.
Le 24e Forum économique mondial s'est ouvert ce mercredi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Camille Gros-Didier.
13 chefs d'État et 1000 délégués sont au rendez-vous d'Abuja pour ce Forum économique mondial pour l'Afrique, surnommé le Davos africain. 70 pays sont représentés, dont la Chine, par son premier ministre. Ce Forum économique mondial a pour thème « Bâtir une croissance inclusive et créatrice d'emplois avec l'espoir d'une meilleure coopération entre pays africains en matière de commerce, d'innovation ». La rencontre doit se terminer vendredi. La capitale fédérale est sous haute surveillance policière car le Nigeria subit des violences récurrentes attribuées aux islamistes armés du groupe Boko Haram. D'ailleurs, une attaque lundi contre la localité de Gamborun Gala, à la frontière du Cameroun, aurait fait des centaines de morts pendant que les recherches continuent pour retrouver des centaines de jeunes filles enlevées depuis le 14 avril.
L'opposant burundais Alexis Sindouidje a retrouvé sa liberté après avoir été retenu depuis jeudi à l'aéroport de Bruxelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Thaïlande a un nouveau premier ministre intérimaire après la destitution de Yingluck Shinawatra et de plusieurs membres de son cabinet par la Cour constitutionnelle du pays. Les précisions de Michel Joseph.
Il s'agit du ministre du Commerce Niwatamrang Bunsong Phasan. Selon la Cour constitutionnelle thaïlandaise, Yingluck Shinawatra avait violé la Constitution quand, pour son propre profit, elle a relevé de son poste en 2011 le chef de la Sécurité nationale pour y mettre un de ses proches. Madame Yingluck, première femme à accéder à la primature dans son pays, s'est défendue farouchement devant la Cour hier avant de s'avouer vaincue aujourd'hui. Ses partisans voient un mobile politique et ont menacé de manifester si elle venait à être destituée, faisant craindre d'autres actes de violence. Une vingtaine de personnes ont été tuées ces derniers 6 mois en Thaïlande dans les protestations antigouvernementales. Les adversaires de Mme Yingluck trouvaient son gouvernement irrémédiablement corrompu et contrôlé par son frère, l'ex-ministre Thaksin Shinawatra, renversé en 2006 par les militaires.
Le président russe Vladimir Poutine exhorte les pro-russes de l'est de l'Ukraine à reporter le référendum prévu ce dimanche sur le rattachement de leur territoire à la Russie. Le vote du 11 mai vise à faire de la région de Donetsk une république populaire indépendante. Après un entretien à Moscou avec Didier Burkhalter, président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, M. Poutine a indiqué que sa requête aux éléments séparatistes vise à créer les conditions nécessaires pour un dialogue avec le gouvernement ukrainien.
Des centaines de rebelles syriens ont entamé leur retrait de la ville de Homs, assiégée par les troupes de Bachar al-Assad. Cela a été rendu possible par un accord de cessez-le-feu qui remet cette zone sous le contrôle du gouvernement moins de mois avant la présidentielle.
En Afghanistan, le président Hamid Karzai a promis d'envoyer de l'aide aux victimes du glissement de terrain de la semaine dernière dans le nord-est du pays. Des centaines de résidents du village d'Abi Barik dans la province du Badakhshan ont péri dans cette catastrophe. Au moins 2000 autres ont dû quitter leur maison. Hamid Karzai a visité la zone sinistrée ce mercredi.
Un citoyen américain arrêté au Pakistan, l'homme dont l'identité n'a pas été confirmée par l'ambassade américaine à Islamabad, a été détenu avant d'embarquer à bord d'un avion à Karachi. Selon les autorités, il transportait illégalement 15 balles de revolver de 9 mm et 3 couteaux et se rendait dans la capitale. Nous essayons de résoudre cette affaire en coordination avec les autorités pakistanaises, a déclaré une porte-parole de l'ambassade.
Élection nationale en Inde, le boycott organisé par les séparatistes du Cachemire a été largement respecté. Des affrontements ont eu lieu aujourd'hui dans le district de Baramulla entre la police et des manifestants. Au troisième jour du scrutin, une bombe a explosé dans un bureau de vote, blessant au moins un élément paramilitaire. Et selon certaines estimations, le taux de participation pourrait ne pas dépasser les 20%.
Avec la baisse graduelle du taux de chômage ici aux États-Unis, l'économie américaine devrait connaître cette année une expansion un peu plus rapide que l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Banque centrale aujourd'hui devant une commission du Congrès. Janet Yellen a souligné qu'après les déboires de l'hiver qui ont sérieusement affecté le PIB, l'économie a amorcé une certaine relance. Optimiste, Yellen a dit que la Fed peut donc continuer de diminuer les efforts visant à stimuler la croissance.
Voilà pour le journal. Il est 19h41 temps universel. Ici Morgane Guiriec et Chérubin Dourcil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au lendemain de son discours prononcé devant les membres du CNT, la présidente centrafricaine est l'invitée ce soir de la Voix de l'Amérique.
Catherine Samba-Panza estime avoir fait ce qu'elle a pu 100 jours après avoir été nommée à la tête du pays. Concernant le prochain gouvernement, elle dit qu'une place plus grande devrait être accordée aux anti-Balaka. Nicolas Pineau a joint en exclusivité la présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza.
Écoutez, j'ai fait le mieux de ce que j'ai pu faire. Je savais que ce n'était pas facile. Je n'avais pas conscience que c'était aussi difficile. Je m'étais engagée à essayer de résoudre les nombreux problèmes de la République centrafricaine, de relever les nombreux défis qui se posaient à moi quand je suis arrivée, de répondre surtout aux attentes des populations. J'ai tenté du mieux que j'ai pu d'apporter des réponses à certaines priorités. La priorité des priorités, c'était la sécurité et c'était la réponse humanitaire. Des actes ont été posés. Objectivement parlant, nous avons enregistré quelques avancées, mais beaucoup reste à faire. Ça, il faut le reconnaître.
Vous avez annoncé un remaniement ministériel. Quand aura-t-il lieu?
Nous allons prendre le temps de le faire avec le Premier ministre, tranquillement, et éviter les erreurs du passé. Il nous a été reproché une faible représentativité des anti-Balaka. Il nous a été reproché un surnombre des ex-Seleka. Il nous a été reproché de ne pas avoir totalement tenu compte de l'équilibre régional. Donc voilà autant de critiques dont nous allons tenir compte.
Vous avez récemment reçu à la présidence l'un des leaders des anti-Balaka, Patrice Edouard Ngaïssona. Certains diront que c'est un signal, un mauvais signal envoyé contre l'impunité. Qu'en pensez-vous?
Pas du tout. Je l'ai reçu à sa sortie de mon bureau. Il a été dans les services judiciaires. Il a été écouté. Il est sous contrôle judiciaire et vient deux fois par semaine être écouté et être contrôlé. Donc, sur l'aspect judiciaire, il n'a pas échappé à la justice de son pays.
Mais beaucoup disent que les anti-Balaka sont des ennemis de la paix. Qu'en pensez-vous?
Ça a été dit, c'est vrai, parce qu'à un moment, il s'agissait donc de groupes qu'on ne contrôlait pas et qui ne contrôlaient pas non plus ces éléments. Et donc, nous avions estimé qu'il fallait mener des actions du côté des anti-Balaka qui devaient davantage contrôler leurs troupes sur le terrain.
Et aujourd'hui, ceux-là et ils sont plus fréquentables?
Plus fréquentables, j'en sais rien, mais ils ont tendu la main. Ils ont déclaré qu'ils allaient faire en sorte de ramener la paix au sein donc de leur localité et d'être plus actifs comme acteurs de paix que comme acteurs de déstabilisation.
Catherine Samba-Panza, présidente de la Centrafrique, jointe à Bangui. Une interview à retrouver sur notre site lavoixdelamérique.com.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Plus de 25 millions de Sud-Africains étaient appelés aux urnes ce mercredi pour élire 400 députés qui eux-mêmes vont désigner le président de la République le 21 mai prochain. Émilie Yob, journaliste à Johannesburg, a suivi le scrutin.
Les derniers sondages annoncent toujours l'ANC comme largement en avance sur ses concurrents, mais disons que le score qui est prévu, qui est un peu plus de 60%, reste quand même un tout petit peu inférieur aux élections précédentes. Et cela est dû en particulier à une multiplication de nouvelles formations politiques et également à un certain mécontentement des Sud-Africains par rapport à la gouvernance du parti.
L'opposition a promis un grand coup avec l'Alliance démocratique. Comment se comportent les opposants à l'heure où nous parlons ?
L'opposition a vraiment fait campagne contre le président Zuma, qui est embourbé dans plusieurs scandales, notamment de corruption et de détournement de fonds publics. Donc les principaux partis d'opposition ont vraiment joué la carte de l'anti-Jacob Zuma. Mais pour beaucoup de Sud-Africains qui soutiennent toujours l'ANC, ils font la différence entre Jacob Zuma et le parti.
Les Freeborn, les jeunes qui sont nés dans la période post-apartheid, ont voté pour la première fois. Quel est l'impact de ces jeunes sur ce vote ?
L'impact est difficile à dire pour l'instant. Ces jeunes représentent 500 000 de votants, en fait. Mais il s'avère que seulement 1 sur 3 s'est inscrit sur la liste électorale, ce qui fait qu'ils représentent 2,5% de la population. Ce sont des jeunes qui, malgré tout, ont aussi des exigences plus élevées que leurs aînés par rapport à l'ANC. Ils n'ont pas vécu l'apartheid, donc eux, ce qu'ils jugent, ils jugent l'ANC, en fait, sur leur bilan et non sur leur histoire. C'est ce qui va, a priori, changer un peu leur vote.
Alors, 25 millions de Sud-Africains étaient appelés au vote à quelques heures seulement de la fermeture des bureaux de vote. Est-ce qu'on peut évaluer le taux de participation ?
Le taux de participation a été très élevé dès ce matin. Dès l'ouverture des bureaux de vote, il y avait des longues files d'attente. Les gens n'ont pas hésité à attendre plus de 2 heures en moyenne pour aller voter. Et je suis passée encore en bureau de vote il y a quelques instants. Il y avait toujours une longue file d'attente. Donc les Sud-Africains se sont déplacés massivement aujourd'hui pour aller voter.
Quand connaîtra-t-on les premières tendances et les résultats finaux ?
Alors les premiers résultats provisoires sont attendus dans la nuit. Les résultats finaux sont attendus samedi.
Émilie Yob, journaliste jointe à Johannesburg par Jean-Roger Billon.
Cap maintenant sur le Nigeria. Que faire pour libérer plus de 200 lycéennes enlevées et dont on est sans nouvelles depuis des semaines ?
Le président nigérian a sollicité l'aide des pays occidentaux. En guise de réponse, le président des États-Unis a décidé d'y envoyer une mission militaire. Barack Obama souhaite aussi une mobilisation internationale contre le groupe islamiste Boko Haram. Comment expliquer l'impuissance de l'armée nigérienne face à Boko Haram ? La réponse de Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS.
Il y a deux principales raisons. Bon, la première, c'est que Boko Haram, qui a été effectivement très largement décimé, son chef Youssouf a disparu en 2009. Il y a eu des répressions très très violentes et en même temps, il s'est reconstitué, il s'est remobilisé, il a recruté, il a diversifié ses modes d'action, dont les derniers atroces de prise d'otages de jeunes lycéennes. Et donc, on peut dire que c'est un mouvement qui a plutôt pris l'ampleur. Et puis, deuxièmement, il est évident que l'armée nigériane, qui est une armée efficiente pour des conflits armés, n'est pas à même d'assurer une lutte contre le terrorisme. Et il est évident que les puissances occidentales peuvent donner leur appui en termes de renseignement, en termes de logistique et en termes aussi d'encadrement des forces de l'ordre.
Dans la dernière vidéo du leader du mouvement, on l'a vu apparaître devant des armements lourds, notamment un engin qui ressemble à un char.
Oui, absolument. Alors effectivement, il y a une question majeure, c'est de savoir d'où vient le financement de Boko Haram. Alors Boko Haram, jusqu'à présent, était une secte qui était dans la lutte contre l'Occident, puisque Boko Haram, ça veut dire contre la culture occidentale, l'éducation occidentale, qui s'en prenait aux édifices publics, notamment aux symboles de l'État du Nigeria, qui s'en prenait aussi aux symboles chrétiens, notamment lors d'attaques contre des églises à Noël, qui, à la limite, a pris des otages récemment, en tout cas, si ce n'est lui, c'est son allié, Ansarou, notamment au Nord Cameroun, mais jusqu'à présent, il faisait plutôt des actions terroristes qui n'étaient pas en termes d'armement lourd. Alors effectivement, il y a sûrement un changement. Alors d'où peuvent venir les fonds, c'est ça la question. Alors ça peut être évidemment des revenus qui sont liés à des rançons de prise d'otages, même si officiellement on dit qu'il n'y a pas eu de paiement de rançon. Ça peut être des participations à des trafics, à des narcotrafics. Mais il y a une autre hypothèse qu'on peut prendre, c'est qu'au fond, derrière, il y a un certain nombre de responsables politiques, notamment du nord du Nigeria, et qui se servent de Boko Haram pour peser dans le débat politique interne au Nigeria, notamment contre les sudistes.
Alors, Obama a envoyé quand même une équipe sur place. Est-ce qu'on peut s'attendre, vous avez parlé de renseignements, mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à voir des drones en action comme en Afghanistan ou au Pakistan?
Oui, c'est vraisemblable. Les drones peuvent servir d'ailleurs à donner du renseignement. On peut avoir aussi des actions par des services spéciaux ou des forces spéciales. D'autre part, il y a effectivement la possibilité d'utiliser des drones à des fins d'attaque de responsables.
Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, il a été joint à Paris par Bagessi Koura.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le Forum économique mondial pour l'Afrique qui se tient cette semaine au Nigeria. Malgré les préoccupations sécuritaires, qu'attendez-vous de ce sommet? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Ce soir avec Bagessi Koura.
Les violences de l'année écoulée en République centrafricaine ont forcé près d'un million de personnes à fuir leur domicile. Depuis décembre, ils sont plus de 100 000, des musulmans en majorité, à s'être réfugiés dans les pays voisins. Les conditions de vie dans les pays d'accueil s'en trouvent affectées, selon Kristina Ivanova, commissaire de l'Union européenne en charge de la coopération internationale, de l'humanitaire et de la réponse aux crises. Des réfugiés désespérés fuient la République centrafricaine pour sauver leur vie. De petites communautés sont dépassées par le grand nombre de réfugiés, ce qui rend leur vie difficile. Nous avons décidé de doubler notre assistance humanitaire de 3 à 6 millions d'euros afin qu'ils puissent accueillir, nourrir et soigner ces réfugiés qui affluent. La commissaire européenne qui s'est exprimée durant une visite lundi à Yaoundé, a ajouté que les efforts pour stabiliser la Centrafrique et mettre fin au flot des réfugiés va nécessiter la collecte des armes à feu et autres armes blanches des mains des milices. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont récemment approuvé une nouvelle mission militaire pour la République centrafricaine. 850 soldats ont été déployés pour soutenir les forces françaises et de l'Union africaine déjà présentes sur place. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a, pour sa part, autorisé une expansion de la force africaine sous mandat onusien. De l'avis de Kristina Ivanova, le renforcement des troupes était nécessaire au vu du chaos vers lequel se dirige la Centrafrique. Nous travaillons très dur avec les Nations Unies pour le rendre possible, avec un renforcement significatif de 12 000 soldats qui doivent se déployer aussi vite que possible, parce que stabiliser la République centrafricaine est le seul moyen de réduire le flux des réfugiés vers les pays environnants. La République centrafricaine a été trop longtemps oubliée et nous, communauté internationale, avons une dette à payer. Il s'agit là d'une crise sérieuse et profonde. La crise a un impact significatif sur le Cameroun. Outre la multiplication des maladies, la communauté d'accueil se plaigne d'une flambée des prix de la nourriture dans les localités où ces Centrafricains en détresse ont trouvé refuge.
On écoutait Issa Napon, vous vous en êtes rendu compte, il s'agissait de l'urgence pour soutenir les pays frontaliers de la République centrafricaine. Par exemple, le Cameroun accueille près de 80 000 Centrafricains.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Vous avez eu assez de temps pour vous préparer, Bagassi Koura pour les sports.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
En football, les Mamelodi Sundowns ont été sacrés champions d'Afrique du Sud.
Oui, ils l'ont fait en s'imposant hier contre Supersport United 3-0. C'était lors de la 29e et avant-dernière journée. Il s'agit, Chérubin, du 6e sacre national pour le club de Pretoria. Le dernier sacre remontait à 2007.
Allons en France, on connaît depuis ce soir le champion.
Oui, et c'est le Paris Saint-Germain qui a été officiellement sacré champion de France grâce notamment au match nul un but partout que Guingamp a arraché contre Monaco, le deuxième du championnat. En ce moment même, le PSG affronte au Parc des Princes Rennes du Burkinabé Jonathan Pitropa. Le score est de 2-1 en faveur de Rennes.
Le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire prolonge son contrat dans son club.
Oui, Copa Barry, âgé de 34 ans, a prolongé de 2 saisons, soit jusqu'en juin 2016, son contrat en faveur du club belge de Lokeren.
Et dans la NBA?
Oui, il y avait deux matchs hier soir. Les Heat de Miami ont gagné à domicile contre les Nets de Brooklyn, 107-86. Et au Texas, Chérubin, les Spurs de San Antonio ont battu Portland 116-92. Ce soir, au programme, les Wizards Washington jouent son deuxième match de ses demi-finales contre Indiana et les Los Angeles Lakers affrontent Oklahoma City.
Merci Bagassi.
Allez, on finit en beauté, n'est-ce pas, Roger Muntou, c'est la musique?
Bien sûr, Morgane, on finit en beauté. Rien ne semble pouvoir arrêter Olivier Chimanga, hein, cet artiste congolais qui continue à composer plusieurs chansons, prêchant la paix en RDC. Son séjour à Kinshasa a sûrement ajouté à son inspiration déjà riche. En effet, son premier concert, Ma guitare et moi, au profit des enfants de rue, marque le point de départ d'une aventure qu'il veut longue. On l'écoute ce soir dans La paix, rien que la paix.
Je rêve de voir la colombe de paix se poser sur nous et aussi voir les humains se tenir main dans la main, tous autour d'une table d'amour pour construire le monde de demain sans prédateurs, là où la paix, l'unité, la justice et l'amour régneront à jamais. La paix, rien que la paix. Je vous ordonne de jeter vos armes immédiatement. Tous main dans la main pour la paix. Rien que la paix, dit Alala.
La paix, rien que la paix. Nous voulons la paix.
Alors, Olivier Chimanga grandit à Kinshasa et fonde son premier groupe à l'âge de 9 ans, sous l'influence de grands maîtres de la musique congolaise, tels que Franco et Dr Nico.
Oui, Morgane, et aujourd'hui, en fait, résident à Paris aujourd'hui, Olivier Chimanga joue avec tous les grands noms hein, de la musique africaine et internationaux. Je cite Papa Wemba, Manu Dibango, Boyz II Men, Passy, Mamadou Soudia de la Guinée-Conakry et beaucoup d'autres. Olivier a écrit des milliers de chansons. Il a un répertoire coloré et magnifique, servi bien sûr par une voix unique.
Osangana petolingana tolona sebolingo Le linge sale se lave en famille Tobosana maye maleka Otonga peto sale la mboka yawe apesa biso Mandoke tonga kamboka te tala tokomi kosila
La paix
Voilà, donc c'était donc Olivier Chimanga, La paix, rien que la paix. Merci Roger.
De rien Morgane, au revoir.
Roger Muntou, que vous retrouvez dans le RM Show dans quelques minutes, à 20h TU.
Kinshasa, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Namibie, Libye.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction. C'était Michel Joseph à la mise en onde. Morgane Guerrier au micro.
Chérubin Dorsil, et nous disons merci à Kelvin.
À demain.